Deux livres de poésie de Didier Turios. Alors, Didier Turios, Turios écrit T-H-U-R-I-O-S, a fait paraître deux livres dont je vais parler. Alors, c'est Didier Turios, il est né en 1960 dans le Tarn, et quand il n'écume pas les chemins poussiéreux de la planète, il vit et il travaille à Toulouse. Il vient d'ailleurs de cesser ses activités. Et Échappé, donc, qui paraît chez l'Harmattan, était son premier recueil de poésie. Et puis après Échappé, alors Échappé, c'était des poèmes qui étaient égrenés entre l'Inde et la Turquie. La démarche de Didier Turios, c'est une espèce de rythmovie permanente pour alimenter sa poésie. Donc c'est un globe trotteur qui ne peut être inspiré et heureux que dans ses voyages et parce qu'il ramène de ses voyages. Alors jeté ça et là, craché au vent, irrésolu de l'ailleurs, semé sur les sentiers chaotiques d'un continent enfoui, ces poèmes de Didier Turios sont l'épine dorsale d'un voyage long cours, le tuteur et le lien, les témoins d'une errance aimée, juste avant que les hommes ne transforment ces sentiers en autoroute à péage, avant demain. Et puis, après Échappé, dans ses poèmes nomades, Didier Turios a fait paraître Vent arabesque, de Smyrne à El Fayoum. Alors, ce livre a eu le prix de poésie du Salon du Livre des Gourmets des Lettres 2012, ici à Toulouse, qui est un prix qui est placé, il y a un Salon du Livre qui est également placé sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, l'Académie qui siège dans le prestigieux hôtel d'Assesa à Toulouse et qui vient de remettre d'ailleurs le 3 mai dans la salle des illustres du Capitole les prix que cette académie décerne donc chaque année. C'est la plus vieille académie d'Europe. Et Didier Turios a eu ce prix du prix de poésie du salon des gourmets de lettres. Alors, on aura le plaisir de l'avoir à ce micro, puisque je l'ai invité. Maintenant, il faut trouver effectivement un créneau pour qu'il puisse venir. Mais avant, je voulais vous signaler ces deux publications, la première Échappée qui était l'Harmattan, et puis Les Vents arabesques, qui sont... Alors, quel est l'éditeur des Vents arabesques? C'est les éditions Le Solitaire, C'est un livre qui coûte à peine 12 euros, qui est un gros livre, hein, mais très bien fait. Il y a plus de 200 pages, 205 pages exactement. Et alors là, c'est pareil, on va trouver un carnet de route, d'un voyage, toujours pareil, cette espèce de rythmovie poétique. C'est un voyage de 5 mois, dans la lumière poussiéreuse, non pas cette fois-ci de l'Orient, mais du Moyen-Orient, en ces coins du monde où l'histoire a du mal à soigner son bégaiement, hein, et on le voit de plus en plus, l'errance ascétique et initiatique que Didier Turios nous fait partager est tout à la fois une immersion dans l'âme des peuples et un périple au cœur de chaque être. Alors, enfant, on savait que Didier Turios partageait ses nuits entre écriture et parcours des planisphères avant que la musique ne s'empare également de lui, puisqu'il est également chanteur, guitariste d'un groupe qui s'appelle le groupe Divinco, et il éprouve l'impérieuse nécessité donc de jeter ses passerelles entre la pop rock et la chanson à texte. Mais c'est le voyage, bien sûr, qui lui rendra le véritable plaisir des mots. D'abord l'Europe, le Maghreb, puis le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Donc ces vagabondages sans but ou défis à relever donneront naissance à des carnets de route des Orientales, publié le manuscrit, échappé, les poèmes nomades à l'Armatande, je vous parlais tout à l'heure, et puis ce dernier livre, Vent arabesque. Il y en aura d'autres, puisque j'ai rencontré il y a peu de temps Didier Turios, et je crois qu'il a des projets. Alors juste très vite, pour ne pas trop prendre sur le temps de notre invité, un extrait. Alhambra. Il y a des moutons au ventre roux, des enfants rieurs au teint basaltique. C'est un bout de monde écrasé de langueur. Il y a des bédouins au milieu des troupeaux, des tentes ça et là où cuisinent les femmes. Chaque mouvement jette de la poussière aux yeux des nuages. Albara. Le végétal a supplanté la pierre. Figuiers à l'appétit féroce, juchés sur des tombeaux ouverts, église byzantine à fleur de terre, la ville morte n'en finit pas de survivre. Serguilla. C'est un désordre rangé, chèvres et mules habitent encore les lieux pour quelques millénaires. Pierre parmi les pierres, parmi les âmes défuntes. Un souffle néanmoins persiste, un reliquat de siècles inabouti, une prière lointaine écornée par le vent à chavirer la nef sous l'azur indolent. Didier Turios, Vent arabesque, de Smyrne à El Fayoum, aux éditions Le Solitaire, 12 €. Et puis Échappé, poème nomade à l'Armatant, 12,50 €. Voilà, nous aurons le plaisir d'inviter Didier Turios prochainement. Et de toute façon, vous aurez les références de ces livres sur notre site les-poètes.fr. Alors, nous allons maintenant recevoir Rebecca Béard, qui est en ligne. Rebecca Béard, qui est écrivain, qui est poète, et qui est une femme très active sur les scènes slam de Paris, qui a participé à des projets internationaux dont elle va nous parler, et qui est l'auteur, entre autres, d'ouvrages pour enfants, de nouvelles, de textes expérimentaux et de critiques littéraires. Alors, elle a fait paraître un recueil sous le titre de « Poèmes urbains » aux éditions Eddie Livre, et qui réunit des poèmes qui ont été dits sur les scènes slam à Paris, enregistrés sur CD que nous allons entendre les extraits donc de ces CD, ou à la radio, ou publiés sur Internet. Elle nous dira comment on peut avoir accès à ces poèmes. Alors certains de ces poèmes ont été traduits et publiés dans d'autres pays. La poésie évolue dans son univers propre qu'elle doit recréer perpétuellement en préservant son essence intime. Donc ce livre ne propose pas de théorie sur la multiplicité des médias et la façon dont ils se répondent, mais seulement une trace silencieuse dans l'espoir que ces poèmes résisteront à la lecture, ce que nous espérons bien entendu. Rebecca Béard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie ce soir, depuis votre région parisienne.
Merci beaucoup de m'inviter.
Enfin du tout, c'est le plaisir est pour nous. Alors, il y a chaque fois que nous avons des invités, ce qu'il y a d'ailleurs de terriblement enthousiasmant dans l'univers de la poésie, c'est son infinie variété, infinie diversité. Et avec vous, on entre dans un domaine qui est un domaine un petit peu à part, en tout cas différent de ce que nous avons fait là ces dernières semaines, et je suis très heureux de pouvoir varier ainsi. D'autant plus que, on va le voir et l'écouter tout de suite, le fait d'avoir enregistré des CD pour faire connaître, pour faire diffuser votre voix en poésie,
Pour la radio, c'est effectivement quelque chose d'assez idéal, puisqu'on a à la fois l'auteur, mais l'auteur qui a vraiment, dans la version qu'il a lui-même choisie et mis en scène de ce texte. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, Rebecca Béard?
Je voudrais partir de ce que vous dites sur les CD, en expliquant la façon dont je l'ai fait. En fait, ça a été fait avec les moyens du bord. Et en fait, j'ai envoyé ma voix à un correspondant canadien qui est un musicien et qui a créé les enregistrements. Et nous avons publié, avant que ce soit des CD matériels, enfin, sur un site qui s'appelle Jamendo. Et sur Jamendo, la poésie est téléchargeable gratuitement. Donc, au début de Jamendo, ce site, c'était assez marginal quand même. Et c'était tout un processus que je retrouvais, en fait, parce que j'ai toujours fait, j'ai toujours créé de la poésie avec des moyens du bord, dans des circuits qui sont pas tout à fait les circuits officiels. Alors, à commencer par les radios libres, les revues plus ou moins éphémères, et puis le début d'Internet. Alors, ce que je veux dire aussi sur le début d'Internet, c'est que ça ne ressemblait pas du tout au web actuel et que c'était réellement une nouvelle liberté qui s'ouvrait, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est sur le web que j'ai lancé un manifeste de poésie. C'était dans un cybercafé. Je savais même pas faire une page Internet, je savais pas ce que c'était. Et on l'a fait pour moi. Je me souviens, j'avais dû payer 20 euros, quelque chose comme ça, ou même pas. C'était les francs, d'ailleurs, à l'époque. Et bon, jusqu'à présent, bon, ma poésie, elle était plutôt confidentielle. Et tout d'un coup, quand j'ai publié ça sur Internet, j'ai reçu des avalanches de courriers. Et je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Et il se passait quelque chose, et ce quelque chose, c'était Internet. Donc, ceci pour me présenter comme une recherche de poésie qui s'est fait de façon un peu braque-ballante, un peu à l'écart, et avec dans un monde de marginalité, mais pas seulement. Aussi à l'étranger, où j'ai essayé de publier à l'étranger, en anglais et en espagnol. Donc c'est finalement c'est peut-être dommage par rapport à l'édition habituelle, mais ça peut être un bien parce que ça témoigne de quelque chose qui s'est passé et qui laisse assez peu de traces dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire toute l'histoire des premiers pas, en fait. Les premiers pas des radios libres, les premiers pas d'Internet. Toutes ces choses qui se sont effacées quand le nouveau média, le nouveau mode d'expression faisait fortune, avait beaucoup de succès, et finalement on oubliait la façon dont tout avait commencé. Voilà, c'est déjà un début pour me présenter. Mais il y a aussi mon esthétique, mais c'est encore un autre problème.
Oui, on va parler tout à l'heure. Alors, donc vous êtes une pionnière, hein, il faut dire les choses comme elles sont.
Ça ressemble un peu à ça, voilà, mais c'est pas seulement à cause de moi, beaucoup plus des gens que j'ai connus. Hein.
Donc c'est ce dont vous parlez, ça commence dans les années 90.
Oui, et même je pense que, avant j'étais aux États-Unis, alors aux États-Unis il y avait, quand même je connaissais toute la culture underground. Hein.
Oui.
Donc quand je suis rentrée en France, j'ai pris le train en marche, quoi. C'était assez évident. Tout ce qui se passait, c'était assez évident puisque ça venait des États-Unis et je connaissais, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie qui était tout à fait en dehors de ce qui se publiait par écrit. Parce que pour moi, c'était naturel d'écrire comme ça, mais en fait, ça n'était pas vraiment, quoi. Bon.
Alors, si vous voulez bien, pour illustrer ça, on va commencer d'entrée à écouter un extrait de votre CD « En guise de passeport » avec le premier titre, qui est le titre éponyme, hein, « En guise de passeport ». On l'écoute tout de suite.
J'ai la ligne des roches en mémoire, les plaines désertes, les crêtes sans neige sous un ciel immuable, la ligne des palais, le nombre d'or par défaut entre les colonnes. J'ai l'héritage de cruauté, le patriarcat fracassé, l'enseignement des oliviers. J'ai la patience des peintres, tous les trésors de nuances, toutes les voies lancées vers l'horizon, le vacarme frénétique des grands pèlerinages. Et puis, le silence désespéré de la misère, les façades patriciennes borgnes, les marchés monotones, la modernité morne. J'ai le centre de gravité des siècles pour modèle de sagesse, pour tentation de folie. Chaotés dans les bus, les trains, perdus dans les aérogares, de transit en transit, mon bagage défoncé, en proie aux petits malfrats. J'ai le voyage et ses risques. Que bouillonnent encore les nouvelles idées à la lumière pâle de la lune de janvier, l'autre, celle d'ici, moins éclatante, peine aperçue au coin de ma rue. J'ai l'ouïe qui s'ouvre grand vers les musiques désaccordées et le rêve d'Orphée. Qu'importe, tout ce que je n'ai pas, n'ai plus, n'ai pas su garder, vous, mes amours, mes amis et mon cher foyer. Et s'il faut plus d'une vie à la mémoire pour recueillir le don d'un génie caché, pour avoir enfin la chose entière, et pas seulement les éclats d'extase, les fragments du vase brisé.
C'était en guise de passeport, et nous c'était en guise d'introduction, donc on voit tout de suite, on s'aperçoit tout de suite de ce qu'est cette poésie narrative, une poésie faite vraiment pour l'oralité. Quel est le musicien qui vous a accompagné là?
Alors justement, c'est ce musicien canadien qui s'appelle Claude Giroux, et... En fait, je lui ai envoyé ma voix.
Oui, c'est dont vous parliez tout à l'heure. Hein.
Voilà.
Et on va le retrouver, ce Claude Giroux, dans tous vos CD.
Ah oui, alors, il faut aller sur Jamendo. Oui. Et là, il faut vous chercher l'hérésie du blasphémique, parce qu'il a un pseudonyme. Donc, il s'appelle glorieusement l'hérésie du blasphémique. Et il fait aussi des vidéos... des choses un peu comiques. Quand il y a eu la grande manifestation au Québec, on a fait quelque chose ensemble, une vidéo protestataire, etc. Mais il est très très, très sympathique et j'aime bien sa musique.
Et alors, Idia, je disais que tout à l'heure, en présentant le poète dont j'ai parlé, là, Didier Turoz, vous parlez d'une road movie, mais on peut le reprendre pour vous aussi. Hein, quand on écoute tous vos textes et qu'on lit vos textes, on voit que vous avez pas mal bourlingué. Hein.
Oui. Je pense que j'ai voyagé, mais je suis pas réellement ce qu'on appelle enfin le routard classique.
Oui, oui.
En fait, j'ai reçu toute ma vie les gens qui faisaient la route et j'ai vu le tout évoluer. Et en même temps, j'ai voyagé. Et il y a une différence énorme entre la façon de voyager actuelle et l'idéal qu'on avait quand on prenait la route, quoi.
Oui.
Mais j'ai gardé le sens du voyage. Et bon, récemment, je suis repartie quand même. Et ce qui m'a aidée, c'était un blog de voyage qui était fait par Grégory Rohard, qui demandait des carnets de route. Et sa façon de voyager à lui, qui est jeune, c'est le trekking, la montagne, la Mongolie, aller loin. C'est pas du tout ouvrir les routes, essayer d'être libre, passer les frontières. C'est tout à fait différent. Donc en fait, j'ai repris tout ce passé de voyage à l'occasion de ces carnets de route, quoi.
Alors, vous êtes allé à Dubrovnik. Il y a un texte aussi sur qui s'appelle « La lettre de Dubrovnik ». Vous pouvez nous en dire un mot?
Ah, c'est vraiment un poème que j'ai écrit à Dubrovnik.
Oui.
Et...
Alors, vous étiez dans quelles conditions et dans quelles circonstances?
C'était à Noël.
Oui.
Et... Je pense que c'était très peu après l'ouverture des pays de l'Est. Donc il y avait encore cette ambiance pays de l'Est, cette ambiance, je ne sais pas, semi-communiste. C'était juste après la guerre de l'ex-Yougoslavie. Enfin, les conversations avec les gens étaient vraiment étranges parce qu'on savait pas s'ils vivaient encore un peu dans le passé ou s'ils regardaient vers l'Europe. C'était très très intéressant à ce point de vue. Et en fait j'ai écrit ça à Dubrovnik parce que je trouvais que c'était un endroit extrêmement beau et en fait, en danger. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la ville de Dubrovnik n'est pas seulement en danger parce qu'il y a eu des guerres, mais parce que si vraiment il y a le réchauffement climatique et la montée des eaux, la rue principale de Dubrovnik était en principe avant, c'était la mer. Et si le niveau de la mer monte, toute la ville est en danger, exactement comme Venise et peut-être plus que Venise. Donc il y avait toute cette impression de beauté très 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 en danger et j'ai écrit ce poème là.
On l'écoute, la lettre de Dubrovnik.
En t'écrivant au miroir perpétué, tu te suspends à un couchant. L'acrobate saute vers d'autres orients. Tous n'avaient pas ce goût de sang. Les couleurs piaffent dans la palette. Chaque étonnement est vierge au seuil de l'an neuf. Retour reconnu d'un regard plus profond. D'Illyrie venaient les marins d'Épidore, où les rires vivants saluaient Lysistrata et ses compagnes, ancêtres des révoltes. Toujours une première fois, cache dans les cycles, celle des enfants, des artistes. Qu'importe si la mémoire vacille entre les continents ignorés, la nostalgie des rencontres, des rendez-vous impossibles. Ce soir, je vous invite, poète inconnu, tous les plus beaux de vos soleils. Je serai la branche du pain qui vous conseille et l'olivier, votre sœur l'orange. Vous ne serez pas mon nom, mais vous lirez mes vers.
Il y a des réflexions sur le monde, hein, tout ce qu'on vient de voir dans la lettre de Dubrovny, mais il y a aussi des réflexions, très beaux textes, sur l'écriture dans Exilé poète. Vous parlez de Baudelaire, de Théophile Gautier, de ce que sont devenus vos amis et des rencontres que vous avez faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce texte, Exilé poète?
Ah oui, ça c'est quelque chose de très très de très nostalgique, quelque chose qui me hante depuis toujours, de voir à quel point et une très jeune fille, c'est une Anglaise, disait exactement la même chose, je crois qu'elle a 18 ans, et c'est ça qu'elle disait, c'est-à-dire les jeunes femmes sont tellement nouvelles, à tout point de vue, enfin pas seulement parce qu'elles sont jeunes et historiquement, et elles arrivent dans un monde extrêmement vieux. Et elles sont des étrangères déjà. Et je me souviens de cette jeune fille, cette Anglaise, qui parlait de toutes les aspirations qu'elle avait, en disant « mais tout ça, ça va être écrasé, quoi. » Et aussi, j'ai rencontré quand même des jeunes femmes, des Iraniennes, des Maghrébines, même des Chinoises, enfin, qui... vivent en France et essayent d'écrire en français, enfin. Et c'est aussi un peu dédié à toutes ces jeunes femmes.
Alors on va l'écouter. Exilé poète.
Au larcin de magazines qu'on appelait cruelles, à l'époque courtoise, charmante dame, en sari de dentelle, vos masques de Venise, vos séductions d'odalisques ont l'air mélancolique des idéaux perdus. Hélas, plus personne n'écrit comme Baudelaire, et l'Orient sans mystère n'est plus le sensuel ornement qui ravissait les esthètes. Il n'y a plus que l'odeur de musc d'une mémoire d'enfance flottant dans les lieux exotiques, devenus étals dans le métro. Triste poésie des villes. Charmante enfant aux studieuses pantomimes qui pâlissait sur la métrique du verbe usé, de la rime. vos multiples incarnations ont lassé la main de la muse. Venu trop tard, venu trop jeune. Aimeriez-vous Apollinaire ou bien Théophile Gautier avec autant de désespoir qu'il aima le visage idéal d'une reine égyptienne, d'une momie? Impossible. Où sont mes amis? Où sont mes poèmes? Même en rêve, je ne sais plus dire je t'aime, de peur de vous blesser.
Voilà, donc un poème très nostalgique.
Oui, et... tout à fait.
Alors, il y a dans les lectures qui vous ont peut-être influencé, il y a le poète John Keats.
Ah oui, ce poème, je l'ai écrit à la suite d'un film qui s'appelle Bright Star, de Jane Campion. Oui. Et c'est une biographie de Keats. Donc j'ai repris, j'ai réacheté les poèmes de Keats et je me suis remise à lire sa poésie que j'ai en fait redécouverte. Toute cette poésie secrète, nostalgique, avec une joie à l'intérieur de la souffrance. Il y a un équivalent, ce serait Eichendorff, par exemple, me donne un peu ce même genre d'impression. Et c'est très difficile à retrouver dans la poésie actuelle, je trouve.
Alors, c'est ça qui est intéressant, oui. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui a changé?
Une forme d'absolu dans l'amour, j'ai l'impression.
Oui. Il y a un très beau livre de Finkielkraut qui s'appelle « Et si l'amour durait ?» où il aborde ce thème, c'est-à-dire l'amour peut-il durer ? Et John Keats, c'est aussi une de ses préoccupations aussi. Hein, il a quelque chose à dire sur ce thème-là, c'est-à-dire si l'amour est par définition quelque chose qui est éphémère et donc d'une façon très absolue qui ne peut pas prétendre à la durée, ou au contraire, est-ce que l'amour véritable est celui qui résiste à tous les aléas et les vicissitudes de la vie et dure?
C'est vrai que les exemples que je vois d'amour absolu, il y a aussi une poétesse, enfin si je regarde Caroline de Gunderode, c'est vraiment presque un modèle d'amour absolu, et effectivement elle s'est suicidée. Et c'est vrai qu'à chaque fois je cherche vraiment je retourne à la période romantique. Maintenant il y a parmi les poétesses étrangères qui décrivent un amour tel que vous le voyez plus permanent, mais qui ne mène pas au suicide, enfin je dirais qu'il y aurait Dulce María Jonas qui décrit un petit peu ça, c'est-à-dire l'amour dans le quotidien, mais avec quand même une profondeur, quelque chose qui garde un mystère, malgré le quotidien, en fait. Mais en France, dans la poésie moderne, j'aurais vraiment du mal. Si, Cadou. Ah, oui, René Guicadou.
Très bien, oui, tout à fait. Absolument. Oui, oui. Avec Hélène et Lorraine Végétal.
Absolument, voilà. Et là, finalement, il voulait vivre avec elle. Il voulait du tout. Il est mort jeune, mais c'est pas du tout du suicide. Il voulait vraiment vivre avec elle et une vie quotidienne, quoi. Avoir une famille, des enfants, etc., quoi. Absolument. Oui, oui.
Alors il dit ça, Finkielkraut, il dit « dire je vous aime, c'est dire je vous aimerai », donc au futur. Et c'est parler simultanément au présent et au futur, c'est s'extraire du fleuve du temps, c'est comme l'écrit Octavio Paz, confier à une créature éphémère et changeante deux attributs divins, alors quels sont ces attributs? L'immortalité et l'immutabilité, voilà. J'ai trouvé cette réflexion assez intéressante. Alors on va écouter ce poème sur à John Keats. Hein. On écoute.
A first poem on the nacreous background of an extraterrestrial shell. A figure from the unfathomable land, hidden in the veins of time. Novelty is sitting at my side, and the love of children. This is the night of shadowy bodies, floating eel dancers. Underneath the surface, the caterpillar beauty is creeping towards freedom. And I read Mr. Keats, who entered contest of cricket sonnets in honor of Shakespeare. Premier poème, sur le fond nacré d'un coquillage extraterrestre, personnage du pays insondable, caché dans les veines du temps. La nouveauté assise à mes côtés, l'amour des enfants. C'est la nuit des corps devinés, les danseuses en guille au-dessous de la surface, la chenille bleutée rampe vers la liberté. Et je lis Mr. Keats qui faisait des concours de sonnets grillons en l'honneur de Shakespeare.
Donc c'est un hommage à John Keats. Dans ce que vous m'avez dit de vous, vous disiez que vous recherchiez aussi les conditions les mieux à même de comprendre les gens ordinaires.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus?
Les gens ordinaires, c'est des gens qui travaillent, qui ont du chagrin, qui essayent d'être libres, mais sans y arriver vraiment. Finalement, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est la révolte, quelles sont les racines intimes de ce qui s'est passé dans l'histoire avec un grand H, mais en tout petit, c'est-à-dire dans la vie des gens, dans ce qu'ils essayent de tenter, il faut un petit peu partager leurs conditions, je dirais. Vous savez, comme dans la chanson, là, « Con los pobres de la tierra, quiero... » Comment c'est ?« Con los pobres de la tierra...
» De qui c'est Quel est l'auteur de ce texte?
C'est une chanson, en fait. C'était Guantanamera. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il relie son sort aux pauvres de la terre.
Ah oui.
Alors, c'est une chanson... je me souviens plus. Je ne peux pas la citer parce que je ne me souviens plus
du
texte. Mais c'est un peu ça, le côté humble... qu'on peut pas éviter, parce que c'est là, c'est la source de la chanson populaire, c'est la source de beaucoup de choses. Et il me semble que c'est un peu ça qu'on veut arracher aux gens. Oui. On veut en faire des robots, on veut en faire... il y a tout le conformisme. On veut qu'ils soient enfermés les uns dans les autres, en fait. Mais non, dès qu'on retrouve un peu de... un peu de sentiment, un peu de sensibilité. Bon, il y a des choses très simples et intéressantes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un problème avec la simplicité et avec la poésie hermétique. C'est-à-dire, idéalement, je me dis, oh non, il faut la poésie, c'est énigmatique, il y a un mystère, il faut que ce soit complexe. Et je termine toujours en écrivant des choses simples. Voilà.
La complexité pour la complexité n'a aucun intérêt. Au contraire, à mon avis, ce serait de l'art de faiseur complètement. C'est au contraire, ce qu'il y a de difficile, c'est d'être explicite et d'être de faire la part du mystère de la poésie justement dans la simplicité. Hein? Et chez les gens ordinaires, il y a aussi un mystère, bien entendu, comme chez chaque individu. Et c'est ce mystère-là que doit cerner la poésie.
En fait, c'est ce qui est essayé, on va y venir, mais c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dans les scènes slam. Je veux dire, celles qui ne sont pas récupérées, où il y a encore de la liberté, quoi. Oui. Mais c'est ça qu'on veut. En fait, c'est retrouver une poésie, pas une poésie du quotidien, une poésie de de la profondeur de la vie en elle-même, quoi. Que tout le monde peut vivre, que tout le monde est vivant. Hein. Enfin, pourquoi on n'aurait pas des chagrins d'amour extraordinaires même si on est au chômage et on pointe à l'NPE. Vous voyez, pourquoi on ne trouverait pas un comportement sublime chez quelqu'un de tout à fait ordinaire? Pourquoi pas? Enfin, vous voyez, c'est un peu un raisonnement.
Pourquoi les gens ordinaires seraient-ils exclus du sublime?
Oui, parce que le problème, si vous voulez, c'est que c'est a priori, c'est évident ce que je dis, oui. Mais dans la réalité, ça ne l'est pas.
Oui, oui, oui.
Parce
oui.
que il y a tout un univers de pouvoir, des pesanteurs sociales, le conformisme, la doxa, etc., etc. Oui. Si bien que c'est la liberté qui ne peut pas sortir, en fait. Ou du moins, ce que les gens ont de mieux ne veut pas sortir, en fait. C'est comme s'il y avait une grande croûte, là, qui leur empêche de... Alors, il me semble que le rôle de la poésie, c'est de leur rappeler cette chose-là, non?
Bien sûr. Et de casser la croûte, comme vous dites.
Voilà.
Hein? Alors, il y a un autre CD-ROM que vous avez réalisé. Toujours avec les résidus plasmiques, là, Claude Giroux,
voilà.
Et qui s'appelle Canicule. Et on va écouter, si vous le voulez bien, le premier texte de Canicule, donc qui s'appelle également Canicule.
Pression sur les poumons, le cou rentré, les membres saisis gourds, du plâtre dans la bouche, rien dans l'air, dans le cerveau. Pas un éclair. Puis, lentement, arrivent en réunion au rendez-vous du ciel les forces qui s'attirent, affinité et chaos comme une foule dans une fête pour les musiciens à l'oreille du temps. La lumière disparaît, doucement voilée, et attirée à la fenêtre, arrachée au travail, je regarde, regarde. drapeaux devant l'école se tordent, les frondaisons s'ébouriffent, ventilent, balayent, couleur verte qui viole les façades. Et sur le rebord de la fenêtre, tout doucement, les premières gouttes tracent un chemin de pousset. Sombre tombe le ciel sur les toits. La pluie vient d'abord par petits traits, avec les premiers grondements lointains. Laisse la lumière entrer, emplis tes poumons, vide ton esprit. Le monde, le Dieu, tout est là devant toi. Bois cette eau fraîche, bienfaisante. La gloire des choses a chassé les mensonges. Venez tous les orages, les éclairs se rapprochent, la pluie tombe drue et se jette sur la croisée. Encore un peu, reste devant l'air libre. Et soudain, cela explose. Des vagues se bousculent sur le toit rouge. Les rafales soulèvent des feuilletés de bruines liquides, aveuglent les rues. Tout crépite, je dois fermer les fenêtres. Il grêle, toc, toc, cela craque, tambourine, tempête, réveille les pensées, force le cerveau. C'est l'éveilleur, le tonnerre, qui nous tire de toute torpeur. Sortez de votre quotidien débile, il vous entraîne, vous tire par la main. Suivez-le, véridique et éternel. Voici qu'il éteint les lumières. Ma maison est dans le noir. La foudre est tombée tout près, au bout de mes bras. Une fleur de feu jaillit de mes paumes et me voici entourée de cette présence dans la gloire des choses. La grêle fait le grand vacarme sur les carreaux. Le ciel se coupe, se fend. Les cerfs d'acier taillent de longues blessures par tous les coins de l'espace. Quelque chose au-delà, ailleurs à vivre, la figure surnaturelle frémit, chasse les confusions. Gloire, appel de poésie. Laisse ta maison, ton champ, ta fortune, oublie ton travail et suis-moi. Je suis la fête du ciel. La pluie indiscrète pénètre la maison par les interstices. Une petite flaque rentre sur le parquet et des langues multiples lèchent les carreaux. Bonheur de respirer. Dans la maison avec les oiseaux, c'est un nid qui nous protège. Et doucement, le bruit décline. Un coin de ciel troué, une pièce d'azur aux mônes clandestines, jetée dans les cumulus, grossie, grandie. Place au couchant, au calme de la préjouissance. Les oiseaux sortent, les rues se remplissent. Retour du courant, l'ordinateur s'allume, le travail reprend. Cette violence, pour sortir de l'esclavage, nature sacrée, gratitude infinie, merci.
Alors, Rebecca Béar, malheureusement, le temps avance inexorablement. Il nous reste 8 minutes d'émission.
Oh,
les gens ordinaires prennent le métro. Je me souviens d'une
ministre à l'époque, NKM, je crois, pour ne pas la nommer, à qui on demandait le prix d'un ticket de métro et qui était totalement embarrassé, ce qui prouve bien que les gens non ordinaires ne prennent pas souvent le métro.
Ah oui, ça c'était le slam de la ligne 13.
Voilà, c'est le slam de la ligne 13, oui.
Oui, parce que la ligne 13 est très encombrée et fonctionne mal. Hein, et donc, on avait fait toute une soirée de slam pour dénoncer les problèmes. Oui, c'était assez amusant, en fait. Donc, j'avais fait ce poème à cette occasion.
Alors, si vous le voulez bien, on va écouter Métro Fantôme. Et ensuite, nous nous quitterons dans le générique de fin. Nous passerons pas le générique de fin, mais nous ferons entendre le moulin à prière. Alors, passer ça un petit peu l'une après l'autre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce moulin à prière ?
Ah, c'est un poème qui est dédié, hein ?
Oui.
Oui, alors ça c'est une très bonne occasion parce que c'est dédié à une poétesse tchèque qui s'appelle Svatava Antošová. Et cette poétesse, elle devait être invitée officiellement, je crois, dans un festival et finalement ça n'avait pas bien fonctionné. Alors, j'étais très très en colère. Donc je suis partie, quand je suis partie à Prague, j'ai vraiment cherché une poétesse que je voulais inviter. À l'époque, j'avais des contacts avec Radio Libertaire. Et finalement, on m'a dit, ah ben oui, c'est elle, elle est très 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 intéressante. Et cette poétesse, c'était une dissidente à l'époque du régime communiste. Elle était lesbienne, ce qui est quand même assez difficile.
À cette époque-là, oui.
Donc, je l'avais invitée chez moi, et elle est passée à Radio Libertaire et dans toutes les radios de la périphérie. Donc, à l'époque, c'était Pierre Loiseau qui l'avait invitée. Voilà.
D'accord. Alors, on va écouter ça. Donc, on va d'abord écouter Métro Fantôme, excusez-moi, et ensuite le moulin à prière, mais entre-temps, je vous reprendrai.
Je rencontre mes ancêtres dans le métro. Qu'est-ce qu'ils font là? Je suis pressée, en talons plats. C'est heureux. Les semis vite faits, changer de quai. Je zigzague, j'accélère, je sprint à toute vitesse. Que faire? Le temps presse. Ils sont toujours là. Des yeux derrière d'autres yeux, cachés, curieux, profilant leurs reflets au travers des portières. Mes aïeux tout fiers, voyagent sans passeport, sans titre de transport, attifés comme les invités du grand soir, drapés dans leurs manteaux vénérables, écoutant au portable les vieux airs en MP3. J'ai un peu froid. Je prends la tangente, je descends, station Saint-Lazare, au galop, dans les couloirs, ligne 13, direction, qu'importe, je perds le nord, la foule s'accumule, à peine moins exotique, sauf un détail technique, les vivants s'entassent, au moins ça tient chaud, ils reviennent. J'en vois un derrière le tube, les caméras vomissent des incubes, dans les courriers de freins de pneus qui crissent. Pas d'angoisse, c'est pas une descente de police, seulement mes grands-parents. Paix à leur âme, assis sur les genoux des dames, je serre les dents, grogne des injures, va des rétros, immigrés des neiges d'antan. Pas de place dans le métro, même pas pour les fantômes. Ils ont l'air si craintifs, ils viennent de si loin, hors des limites de l'épure. Comme ce vieux derviche qui lorgne mon bouquin, ou cette mousse met sous son baldaquin, et ces joueurs de tarot qui brandissent l'arcane 13. Je sais, Le 1er novembre, c'est bientôt. Mais je regrette, il y a erreur. Les catacombes, c'est encore ailleurs. Au cimetière de Montparnasse, je vous débarque. Et si vous persistez, ça sera Montmartre. On ne peut pas accueillir toute la misère des tombes. Il n'y a rien sous la terre. Rien qu'un boucan d'enfer. Ils se font tout petits pour ne pas déranger. Pourquoi être en colère? Ils demandent si peu. Le sourire d'un enfant, des roses un peu flippées, un air d'accordéon, un souvenir de Paris quand les bals populaires brillaient sous les néons. Mais voilà que soudain, tout s'éteint brusquement, et dans le silence de jugement dernier, on entend la sentence. Pour des raisons de sécurité, le trafic est interrompu entre les stations Châtillon et Saint-Denis. Un paquet suspect a été trouvé sur la voie. Le trafic est interrompu. Venez prendre les correspondances. Interrompu. Suspect. Sécurité. Suspect.
Alors, Rebecca Béa,
oui.
Si vous voulez bien, avant de nous quitter sur le moulin à prière, qui est dédié à Svatava
Antoshova,
vous allez nous rappeler où est-ce que l'on peut retrouver votre poésie, retrouver ce que nous avons entendu, et bien entendu, bien au-delà, hein, puisque... nous n'avons pas parlé encore de deux autres CD-ROM, Fatrasi et Pluie de Nom.
Oui, alors, pour le recueil que j'ai publié, dans ce recueil, il y a 4 CD. Pour les trouver, ils sont téléchargeables gratuitement, et il faut aller sur un site qui s'appelle Jamendo. En fait, il suffit de taper Rebecca Béard, Jamendo, et un des titres, par exemple Rebecca Béard, Jamendo, Canicule. Et finalement, vous tombez sur le site et tous les CD sont là.
D'accord, et on peut les télécharger sans problème.
Sans problème, non, c'est vraiment, c'est très très facile, il suffit d'aller sur Internet il y a aussi, il suffit aussi, par exemple, pour avoir une idée de ce que je fais assez rapide, il y a mon profil sur Google+. Alors c'est pareil, il faut taper Rebecca Béard Google+, et on trouve mon profil, et là j'ai essayé de mettre ce qui est un peu épars sur le web, il y a des photos, ah oui, parce que parmi les poèmes du recueil, il y a la transcription écrite de poèmes qui ont été montés en vidéo. Et ça me plaît beaucoup, les vidéos poèmes, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Donc, sur le papier, effectivement, on ne voit que la trace écrite, mais ça renvoie, pareil, sur le web, à une vidéo sur YouTube. En fait, c'est un recueil... qui se vend, mais finalement ce qu'il y a à l'intérieur, oralement, est gratuit. c'est assez paradoxal.
Oui, assez. Bon, écoutez, alors, tous ces renseignements seront repris sur notre site les-poètes.fr et bien entendu dans le compte rendu de l'émission qui sera fait et qui sera en ligne dans un temps que j'espère assez proche, hein, ça va dépendre de mon travail.
Voilà, bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était vraiment très très gentil de m'inviter.
Et on va se quitter donc sur ce dernier texte donc de Rebecca Béard, Le Moulin à prière. Merci beaucoup et à très bientôt, Rebecca Béard.
Auprès d'un nid de l'ouest, transi de neige bleue, aux clowneries de décembre, un
Pantin Clochette s'envole d'un bar miniature. Tire-lui, au doux son à l'oreille du vent. On a découpé dans le papier les noisettes des écoliers. L'enfance s'est changée en moineau plume, en pénitence cachée dans les sapins froissés. Auprès d'une vitre aux doux givres, la voix du dehors chuchote une langue barbare, dit-on peu comprise d'un être rare. Un grand signe dédaigne le lac aux chiffres calmes, réceptacle de nuit. L'odeur du café et un son de robe à danser s'ennuient d'hôtes en congé. Liberté lointaine. Que chantez-vous, châtelaine, au décor de bois d'élan sous vos vastes futaies, que les guirlandes d'étoiles ensorcellent? Savez-vous la portée, le son de la corne taurine, les drogueries d'herbes enfumées sur la glace des plateaux, l'amour mystérieux des rosses invisibles et ses coquillages mystiques au fin crible des pensées. Je vous sens au-delà, votre œil d'enfant étonné, les dessins tatoués de vos hanches bien formées. Je vous devine, belle égarée, et ma maison s'attriste de ne pouvoir s'illuminer de votre présence flamme, douce dame.